Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Des condamnations, enfin, pour le scandale du Mediator. 10 ans après, médicaments responsables de centaines de décès, les laboratoires Servier sont reconnus coupables de tromperies aggravées, homicides et blessures involontaires. La crise sanitaire et la pression qui s'accentue sur l'exécutif face à la flambée épidémique. Une troisième vague bientôt plus haute que la deuxième, près de 4900 malades en réanimation. Les médecins hospitaliers expliquent que la situation n'est plus tenable, qu'ils devront bientôt faire le tri entre patients. Question aussi sur le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires, avec de nouvelles difficultés dans les collèges et les lycées. Dans le canal de Suez, le porte-conteneur Evergiven a pu être dégagé, le trafic va reprendre. En Birmanie, les manifestants à nouveau dans la rue, malgré une répression de plus en plus sanglante. Invité d'Europe Midi, l'historien Vincent Duclerc, auteur du rapport qui pointe la responsabilité accablante de la France dans le génocide rwandais de 94, dans la préparation au génocide. Responsabilité, mais pas complicité. Il nous expliquera en direct.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le pire scandale médical de ces dernières décennies. Un médicament antidiabétique prescrit comme coupe-faim pendant 33 ans, malgré des alertes répétées sur sa dangerosité, de graves lésions cardiaques. Le Mediator a provoqué la mort d'au moins 500 personnes. 6500 parties civiles s'étaient constituées pour le procès de son fabricant et promoteur, les laboratoires Servier, accusés d'avoir sciemment dissimulé les dangereux effets secondaires de son produit. Épilogue donc ce matin, après 10 mois d'audience. Gladys Laffitte, Servier et ses dirigeants sont lourdement condamnés.
Oui, les laboratoires Servier sont coupables d'une fraude d'une ampleur considérable et inédite. Voilà les mots du tribunal qui les accuse d'avoir maintenu envers et contre tout le Mediator sur le marché au mépris de la sécurité des patients. Les laboratoires Servier ont fragilisé la confiance dans le système de santé. Malgré leur connaissance des risques encourus depuis de très nombreuses années, ils n'ont jamais pris les mesures qui s'imposaient et ont trompé les consommateurs du Mediator, a expliqué la présidente. Et pour cela, ils devront payer une amende de 2 710 000 euros. C'est bien moins que les 10 millions requis par le parquet, mais c'est le plafond maximal avec la qualification retenue par le tribunal aujourd'hui. Une peine inférieure aux réquisitions aussi pour l'ex-bras droit de Jacques Servier. Il est lui condamné à 4 ans de prison avec sursis. L'agence du médicament est elle aussi reconnue coupable de négligence. Elle a failli dans son rôle de police sanitaire et de gendarme du médicament et a participé à la défiance des citoyens envers les autorités de santé. Elle devra, elle, s'acquitter de 333 000 euros d'amende.
Gladys Laffitte en ligne du tribunal de Paris où on vient tout juste de terminer la lecture du très long délibéré de ce procès historique. Pour la crise sanitaire, la situation dans les hôpitaux n'est plus tenable, constat et colère des plus hauts responsables médicaux de l'AP-HP. Ils l'ont dit hier dans une tribune au JDD. Ils devront bientôt faire des tris. Ils auront à choisir entre deux patients à sauver. Et ils demandent au pouvoir politique d'assumer clairement et publiquement les conséquences sanitaires de ces décisions. Victor Dolande, ces directeurs médicaux de crise des hôpitaux parisiens ont échangé hier soir avec Olivier Véran.
Oui, ils étaient une dizaine réunis en visioconférence hier soir avec le ministre de la Santé pour lui redire l'urgence de la situation. Avec plus de 33 000 nouveaux cas chaque jour, en moyenne, les contaminations ont augmenté de 17% en une semaine. Une accélération qui touche presque toutes les régions et dans 5 départements d'Île-de-France. Le taux d'incidence dépasse même le niveau observé lors de la deuxième vague. Le nombre de patients en réanimation va dépasser aujourd'hui le pic de la vague de novembre dernier. Et les soignants sont davantage inquiets que lors du premier afflux de malades en mars-avril 2020. Ils savent qu'ils vont être obligés de faire des tris entre les patients Covid et non-Covid, de faire des sacrifices, ce sont les mots qu'ils emploient, ce n'est pas rien. De son côté, le gouvernement va encore se donner 24 à 48 heures pour voir si les mesures prises il y a 11 jours ont un impact. Mais pour Benjamin Davido, directeur médical de crise à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, il ne faudra plus tergiverser après ce délai.
Très clairement, si demain ou après-demain, il n'y a pas de diminution de l'incidence des nouveaux cas, notamment dans les régions les plus touchées, alors ça veut dire que les mesures n'ont pas d'impact, soit parce qu'elles ne sont pas comprises, soit parce qu'elles ne sont pas efficaces. Il faudra donc prendre des mesures plus dures sur un plan sanitaire, si on veut libérer des places d'hospitalisation, et libérer aussi la conscience des médecins, qui est un devoir éthique de soigner les malades, de devoir faire un tri inhérent, parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux.
La grande crainte des soignants, c'est que la situation n'est pas la même que l'année dernière. Il y a beaucoup plus de malades non-Covid à prendre en charge. Des renforts de personnel impossibles dans les régions les plus touchées et une stratégie de transfert de patients qui ne fonctionne pas. Des inquiétudes résumées ainsi par un médecin réanimateur d'Île-de-France. Si on n'atteint pas le pic de la troisième vague dans les 10 prochains jours, l'hôpital va être broyé.
Victor Delande, et revoilà le président en première ligne, Emmanuel Macron, qui disait encore jeudi soir ne vouloir faire ni mea culpa ni constat d'échec. Le président se déplace cet après-midi à la caisse primaire d'assurance maladie de Créteil. Louis de Raguenel, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce que pourrait décider le président dans les prochains jours?
Eh bien, Emmanuel Macron a assuré hier qu'il n'avait encore rien décidé pour le moment. Ce qui veut dire que toutes les pistes sont encore sur la table, allant d'un reconfinement dur au statu quo. Et une certitude, il n'y aura pas d'allègement des mesures actuelles. Alors qu'il fait face à un quasi-consensus des scientifiques plaidant en faveur de nouvelles restrictions, le chef de l'État veut être certain que tout a été tenté avant de reconfiner. Mais plusieurs de ses proches reconnaissent que cette stratégie est en train de montrer ses limites. Comme me l'a confié l'un d'eux, les classes dans les écoles sont en train de fermer en cascade. On n'arrive pas à augmenter le télétravail et l'épidémie flambe. Ce n'est pas tenable. Selon un autre conseiller, Emmanuel Macron sera fixé demain soir sur ce qu'il décidera une fois qu'il aura les derniers chiffres consolidés des contaminations et des admissions en réanimation. Une décision qui doit ensuite être discutée en Conseil de défense sanitaire mercredi. Enfin, nous serons tous fixés sur notre sort cette même journée de mercredi ou jeudi soir lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sur la crise sanitaire.
Louis de Raguenel, vous avez cité un sujet sensible parce que le gouvernement en a fait un étendard, le refus de fermer les écoles, collèges et lycées. Là aussi, la situation paraît de moins en moins tenable, d'autant que le nouveau protocole sanitaire dans les 19 départements les plus touchés, fermeture de la classe dès l'apparition d'un malade, ces nouvelles règles sont un casse-tête en collèges et lycées, Virginie Riva.
Oui, inquiétude au collège du côté des proviseurs notamment, car à l'inverse d'un lycéen, un élève de collège ne peut pas être renvoyé rapidement chez lui. Il faut avoir au préalable contacté les parents, obtenu leur autorisation pour que leur enfant puisse repartir. Autre difficulté cette fois au lycée, elle est liée à la réforme de Jean-Michel Blanquer qui a fait disparaître les classes à proprement parler pour privilégier les groupes autour de spécialités. Le SNPDEN, syndicat des personnels de direction, demande des précisions et notamment Bruno Bobkiewicz, membre du syndicat et proviseur au lycée à Vincennes.
J'ai besoin de savoir qui est concerné. Si c'est tous les élèves qui ont été en contact avec le cas positif, ça peut très vite déborder largement le cadre de la classe. Et ça, moi, je ne peux pas passer mon temps à vérifier avec qui l'élève, à un moment donné, a potentiellement été en contact. Mais tout le monde se dit que ce n'est pas possible.
Enfin, autre difficulté, elle concerne les enseignants. Ils ne sont pas considérés comme cas contact en cas de fermeture de classe car ils ne déjeunent pas sans masque avec leurs élèves. Mais en revanche, s'ils sont malades, là, la question de leur remplacement se pose. Le ministre a indiqué vendredi que des recrutements allaient intervenir en urgence, mais les syndicats d'enseignants le disent, les viviers sont vides. Et dans le second degré, on n'arrive jamais à remplacer au pied levé un enseignant pour 7 jours.
Virginie Riva, merci. Dans un instant, Patrick Cohen. Dans un instant, la suite, la répression en Birmanie qui tourne au massacre. Des manifestants à nouveau dans les rues ce matin en Birmanie, malgré la répression de plus en plus sanglante. Au moins 107 morts samedi, dont 7 enfants. Et désormais, Jean-Sébastien Soldaini, ce ne sont plus seulement des tirs à balles réelles dans la foule, dans les foules de manifestants, mais l'utilisation de gros moyens militaires.
Et cela va même jusqu'à des frappes aériennes. Ça reste limité à une région du sud-est de la Birmanie, mais c'est la première fois en 20 ans que cela arrive. C'est dire le niveau de répression qui est prête à engager l'armée pour étouffer ce mouvement de contestation. 450 personnes sont mortes en moins de 2 mois. Un quart au cours du week-end. Passé parfois par des tirs dans le dos alors que les manifestants étaient en train de fuir, parfois sur de jeunes enfants. Les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU dénoncent des actes lâches, insensés, des morts gratuites, mais pas de quoi intimider la junte qui ne déroge à rien, pas même au traditionnel jour des forces armées, un gigantesque défilé militaire pour honorer les soldats birmans. C'était samedi alors que des dizaines de personnes étaient tuées dans les rues et c'était en présence du vice-ministre russe de la Défense.
Merci Jean-Sébastien Soldaini. En Égypte, le canal de Suez débloqué, le porte-conteneur échoué a pu être bougé, le trafic va repartir, Clément Le Saffre.
Oui, ça y est, c'est en bonne voie. L'Ever Given a été remis à 80% dans la bonne direction, mais ce n'est pas fini pour autant. Le plus dur reste à faire, a indiqué l'autorité du canal de Suez ce matin. Il faut maintenant dégager complètement le cargo et le remettre à flot. Ça pourrait prendre encore plusieurs heures, voire peut-être quelques jours. Mais on s'approche de la fin de cette mini-crise qui aura duré 6 jours avec un canal totalement à l'arrêt du jamais vu depuis la guerre du Kippour au début des années 70. Selon les estimations, chaque jour de blocage coûte entre 5 et 9 milliards d'euros au commerce mondial. Plus de 400 bateaux attendent désormais des deux côtés du canal pour pouvoir passer. À part un petit délai, il n'y a pas d'inquiétude particulière pour les stocks de pétrole et de marchandises. En revanche, certains cargos transportent des animaux qui pourraient manquer d'eau et de nourriture à cause du retard. Et une fois l'incident terminé, l'autorité du canal de Suez a fait savoir qu'il faudra encore 3 jours pour écouler tout ce trafic des cargos en attente. Plusieurs armateurs ont d'ailleurs déjà fait le choix de ne pas attendre et de dérouter certains de leurs navires par le cap de Bonne-Espérance, la pointe sud de l'Afrique. 9000 km, 7 jours de navigation en plus, on leur souhaite bonne route.
Merci. Une histoire pour finir, une histoire d'évasion en Saône-et-Loire. C'est une dame de 65 ans en maison de retraite qui s'est fait la belle au volant, enfin en volant et au volant d'un camion de pompiers, Justin Morin.
Oui, c'était samedi soir. Les pompiers en intervention pour une urgence ont laissé la clé sur le contact. Mais ils ne se doutent pas que depuis la fenêtre de sa chambre, une résidente guette. Elle a 65 ans et quand elle aperçoit le camion rouge garé devant l'établissement, elle y voit une opportunité de rentrer chez elle. Les pompiers terminent leur opération, mais il est trop tard. Le véhicule a disparu. La résidente s'est échappée. Les gendarmes sont alors appelés en renfort. Heureusement, tous les camions de secours sont équipés d'une balise GPS. La fuyarde est rapidement géolocalisée. Elle file sur la départementale 930 en direction de son ancien domicile. Les gendarmes la prennent alors en chasse. Cela dure tout de même une trentaine de minutes. Ils interceptent la fugitive une quinzaine de kilomètres plus loin, sans la brusquer, dans la commune de Beauregard, au bord de la Saône. Elle n'est pas blessée, mais elle est d'abord emmenée à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône pour un état dépressif. Elle y passe quelques heures avant d'être raccompagnée dans sa chambre à la maison de retraite.
Justin Morin, le temps, Anissa l'a dit, le printemps prend ses quartiers.
Oui, le soleil brille, Patrick, sur tout le pays, sans exception cet après-midi. Alors, au bord de la Méditerranée, s'il faut vraiment trouver quelque chose, nous avons un petit vent marin qui apporte quelques nuages bas au bord de l'eau. Le vent d'Otan souffle aussi jusqu'à 50 km/h. Les températures, elles vont gagner quelques degrés cet après-midi. Alors c'est dans le nord-ouest, au bord de la Manche et au bord de la Méditerranée qu'on aura les températures les plus fraîches cet après-midi, avec 16 degrés à Cherbourg, 17 à Nice et Dunkerque, 18 degrés pour Marseille et Bastia, 20 à Dijon et Lille, 21 degrés pour Brest, Rennes et Toulouse, 22 degrés à Paris, Lyon et Strasbourg, 23 pour Limoges, 25 à Brive et Biarritz et la maximale 26 degrés prévus pour Mont-de-Marsan. Et ce beau temps, comme ça, sans nuages, va se poursuivre toute la semaine.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Avec nous dans un instant, l'historien Vincent Duclerc qui vient de pointer dans un rapport officiel la responsabilité accablante de la France et spécialement de la présidence française, celle de François Mitterrand, dans la préparation au génocide rwandais de 94. À tout de suite. Bonjour Vincent Duclerc.
Bonjour.
Historien, vous avez dirigé le centre Raymond Aron, vous êtes l'auteur de biographies du capitaine Dreyfus, de Jean Jaurès ou d'Albert Camus. Le volumineux rapport que vous avez remis vendredi sur le rôle de la France dans le génocide rwandais, l'un des 3 génocides du XXe siècle, près d'un million de morts en quelques semaines au printemps 94. Ce rapport, élaboré avec 12 autres chercheurs, est le fruit de 2 années de travail, 8000 documents officiels consultés, certains étaient couverts par le secret défense. Vous avez la conviction de vous être approché au plus près de la vérité historique ?
Oui, en tout cas, on l'a fait de deux manières. C'est-à-dire, à la fois, on a décidé, grâce à la recherche et grâce au soutien du président de la République. Là, il y avait une volonté politique de nous ouvrir toutes les archives. Cette volonté, elle a été accomplie. Là, de ce point de vue-là, il y a eu un très fort soutien des pouvoirs politiques à la recherche, et ça, il faut le saluer. Et donc, effectivement, avec cette équipe, on a consulté... on a effectivement déclassifié 8000 documents, mais on a consulté des dizaines de milliers. Hein. Bon, ouais. Ça, c'est important. Et oui, ce qu'on a fait, c'est à la fois d'essayer d'établir, grâce aux archives, donc, des éléments de vérité. C'est-à-dire, en gros, on a documenté les faits, ce qui est extrêmement important, parce qu'on est quand même dans un sujet où il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'allégations. Et deuxièmement, on s'est efforcé de dire, dans un débat qui est quand même très miné, qui est violent, qui est plein de mensonges, de manipulations, on réinstalle la vérité. Et là, c'est un discours commun et on peut dialoguer avec tout le monde à partir du moment où on est sur cette exigence.
Il vous a manqué des pièces, des notes de la DGSE, du contre-espionnage français ?
Alors, la DGSE, ils ont été très très bien. Je veux dire là, Bernard Aimier, le directeur général, les archivistes nous ont ouvert les archives de la DGSE. On a déclassifié plusieurs centaines de fiches diffusion, ce qui arrive donc au président de la République, aux différents ministres. Et on a même pu déclassifier des notes, plus opérationnelles. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Globalement, on a eu un accès à tout. Il y a eu effectivement des blocages. Bon, l'Assemblée nationale, on n'a pas compris pourquoi, nous a refusé l'accès aux archives de la mission qu'il laisse. Et puis, on a manqué de temps, c'est vrai, parce que, en gros, 2 ans, ça va très vite. Il y a eu quand même l'arrêt du premier confinement, la mise en place quand même d'une commission qui est totalement inédite. Jamais, enfin, jamais un pays confronté à un tel passé si récent et si controversé accepte de tout ouvrir. Donc, on a manqué quand même de temps parce qu'il fallait mettre en place tout ça. Mais on a je pense, en fait, obtenu quand même des résultats extrêmement importants. On a essayé de comprendre, voyez, le processus de décision, comment agissent les institutions.
Oui, avec un peu plus de temps, vous le dites en conclusion, vous auriez pu, par exemple, mener des entretiens pour combler ce qui manque, des éléments lacunaires. En tout cas, l'essentiel est là, Vincent Duclert, la France est restée l'alliée jusqu'au bout du pouvoir hutu. Elle a lié son destin à ce régime génocidaire. Tous les signaux d'alerte ont été ignorés et cela tient pour l'essentiel à un homme, François Mitterrand, et à ceux qui l'entouraient dans son cabinet militaire, notamment le chef d'état-major particulier.
Oui, alors c'est vrai que, encore une fois, nous étudions des systèmes. Hein. Nous n'avons rien contre François Mitterrand, qui a été aussi un chef d'État qui a beaucoup apporté à la France. Mais là, sur ce dossier-là, il faut dire, François Mitterrand donnait des ordres à la voix. Ça, on a pu reconstituer très finement les traces. À son chef d'état-major particulier, le général Queneau, qui avait un adjoint, le général Huchon. Ces hommes ont vraiment transformé cet état-major, qui est un cabinet militaire, qui s'est déconseillé, en état-major opérationnel. François Mitterrand aurait pu arrêter tout ça. Il savait bien quelle était la position extrêmement hostile donc au front patriotique rwandais, c'est-à-dire en fait un mouvement politique de Tutsi exilés et de Hutu d'opposition qui étaient réfugiés en Ouganda, mais c'était un mouvement intérieur au Rwanda et un mouvement politique. Et en fait, cet état-major particulier a présenté à François Mitterrand, mais François Mitterrand souhaitait aussi, je veux dire, aussi cette présentation, cette vision qui est fausse, hein, comme des Ougando-Tutsi, c'est-à-dire le contraire de ce qu'était effectivement le Front patriotique rwandais. Et effectivement, ce lien donc à la fois état-major particulier, le conseiller Afrique qui effectivement est très lié, je veux dire, à l'état-major particulier, François Mitterrand, Roland Dumas aussi, donc jusqu'en 93, hein, le ministre des Affaires étrangères, on a affaire quand même à un groupe d'hommes, et c'est une histoire d'hommes, il faut le souligner quand même, très 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 unis, qui mène une politique au Rwanda, qui est, je veux dire, de pousser le président Habyarimana, donc le président du Rwanda, qui est un dictateur, mais qui avait des possibilités de démocratiser, de le pousser dans le camp extrémiste, et en diabolisant le FPR, donc en réinstaurant beaucoup d'ethnicisme.
Avec l'idée que le FPR, les Tutsis du FPR sont fondamentalement les ennemis de la France, les valets des Américains ou des Ougandais, etc. Un mot encore, ce que vous décrivez, c'est un dysfonctionnement politique ou politico-militaire, c'est-à-dire un cabinet présidentiel, un chef d'état-major particulier qui prend le pas sur le chef d'état-major des armées qui n'a plus la main, hein, sur le dossier rwandais, pour être clair. Hein. Est-ce qu'on sait, Vincent Duclert, jusqu'à quand la France a livré des armes au régime Hutu ?
Alors, il y a effectivement deux phases, c'est-à-dire lorsqu'il y a les accords d'Arusha. Alors, il faut être juste et souligner qu'il y a aussi un effort de la part de la France, y compris, je veux dire, de François Mitterrand, de son secrétaire général Hubert Védrine, pour amener, je veux dire, des accords de paix et de partage du pouvoir. Mais en même temps, il y a une autre politique qui est menée par la France, qui est de soutenir Habyarimana et donc, au fond, de donner à Habyarimana les moyens de refuser l'application de cet accord. Donc, si vous voulez, il y a des politiques parallèles, il y a des chaînes parallèles d'information, il y a des gens aussi, et ça il faut le dire pour les auditeurs et pour les Français, il y a des hommes qui luttent contre ce système, que ça soit par exemple le général Varay qui vient de donner une belle interview là dans Le Monde et très très clair, qui était chef de la coopération militaire, ou le ministre Pierre Joxe. Pierre Joxe, de 91 à 93, il ferraille avec François Mitterrand, il dit on ne peut pas agir comme ça en termes militaires, il demande une gestion de crise éthique en fait. Et là, Pierre Joxe ne peut pas aboutir. Et donc en fait, on a vraiment, si vous voulez, une situation où au fond, il n'y a aucun contrôle qui est fait sur cette politique au Rwanda, qui est le Rwanda devient un laboratoire en fait de cette présidence qui est déconnectée de la réalité. Ce qui est impressionnant, c'est que la lecture qui est faite, et vous avez parlé effectivement de cette obsession anti-américaine, dire là on a quand même affaire à une géopolitique, excusez-moi, extrêmement archaïque, primaire, qui ne correspond pas du tout aux analyses qui sont faites au même moment. Je veux dire, dans aux affaires étrangères, au ministère de la Défense, vous avez des chercheurs qui travaillent, que ce soit Roland Marshall, que ce soit Jean-François Bayard, et qui, je veux dire, montrent aussi l'importance d'une recherche sur le sujet.
Et dans la diplomatie française, vous les citez en toute fin de rapport, l'ambassadeur de France en Ouganda, Yannick Gérard, l'un de ses adjoints, Antoine Enfray, qui sont des voix dissidentes qui ont été ignorées, parfois mises à l'écart ou sanctionnées. Il y a le soutien sans faille à un régime où la haine ethnique se développe, et puis il y a ce que fait la France à partir de début avril, quand le président Habyarimana est tué et que le Rwanda bascule dans le génocide. D'abord, cette opération Amaryllis, pour évacuer les Français, mais pas les Tutsis qui travaillent pour eux et qui vont se faire massacrer. Et puis ensuite, l'opération Turquoise, c'est le retour des soldats français sous mandat de l'ONU à partir de juin 1994. Opération humanitaire, ses promoteurs disent qu'elle a sauvé des vies, ce qui est vrai, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi protégé les génocidaires, Vincent Duclerc ?
Alors, ce qui est important, c'est de rappeler que avec la cohabitation, les choses changent. François Mitterrand n'a plus la toute totale souveraineté sur les affaires militaires diplomatiques, ce qui est effectivement important. Et là, Édouard Balladur, est à l'opposé, au fond, de la politique que François Mitterrand veut mener en Afrique, impose quand même un nouveau cours. Ça, c'est tout à fait clair. Mais en même temps, il y a, l'impossibilité, nous on a parlé de responsabilité cognitive, c'est-à-dire l'impossibilité de comprendre qu'à partir du 7 avril, au lendemain de l'attentat, eh bien, c'est un génocide contre les Tutsis. Mmh. C'est pas des massacres interethniques où, effectivement...
Comme ça a été dit longtemps par un certain nombre d'officiels, dont François Mitterrand et d'ailleurs Alain Juppé aussi.
Alors Alain Juppé et Lucette Michaud-Chevry, qui est ministre déléguée, au mois de mai, font des déclarations très fortes en disant « il y a un génocide », et après font une sorte de machinerie en disant « oui, mais il y a aussi des massacres du Front patriotique rwandais ». Donc on se retrouve dans quelque chose qui est, au fond, assez... obscur, hein, il faut le dire. Sur le terrain, que ça soit lors de l'évacuation des Français, donc vous avez l'opération Amaryllis, ou bien l'opération Turquoise, donc à partir de la fin juin, eh bien, il y a une indécision des ordres qui fait que, sur le terrain, les militaires arrivent, parce que, effectivement, les militaires, il faut le dire, sont extrêmement capables, arrivent à réagir à des situations très difficiles, mais globalement, et c'est là, si vous voulez, ce qui est extrêmement triste, et il faut le dire aux auditeurs, c'est que la France avait la possibilité, avec l'opération Amaryllis et l'opération Turquoise, de renverser les choses, de dire, voilà, la France vient pour arrêter un génocide. Et en fait, ça n'a malheureusement pas été le cas, et c'est vrai que là, on paye aujourd'hui encore ces indécisions. Je veux dire, encore une fois, il y avait une bonne volonté française avec Édouard Balladur, mais effectivement, il manquait, si vous voulez, de vision et de compréhension des choses.
C'est-à-dire qu'ils ont renvoyé dos à dos les belligérants, d'une certaine façon, les victimes et les bourreaux.
Il faut le dire. Et le Front patriotique rwandais qui a, je veux dire, opéré un arrêt du génocide par les armes était considéré, au moment du début de l'opération Turquoise, comme un ennemi potentiel. Donc vous voyez, vous aviez une situation où la France venait sauver des victimes, donc d'abord des Tutsis, parce que c'est les Tutsis qui étaient menacés. Hein. Et puis en même temps, il y avait le FPR demeurait en partie l'ennemi. Et c'est grâce aussi au travail des militaires sur le terrain qu'ils ont pu faire admettre à Paris qu'il fallait travailler avec le FPR.
Merci beaucoup Vincent Duclerc. Je le rappelle, vous écrivez aussi « Pas de complicité française du génocide », si l'on entend par là une volonté de s'associer à l'entreprise génocidaire, mais peut-être cette question fera-t-elle l'objet de débats en justice et de débats judiciaires. Merci d'être venu au micro d'Europe Midi.
Merci. Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis dans un instant, le 13h de Christophe Lamarre, puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.